Quand Jean-Marc m'a proposé de partager avec vous une méditation, je lui ai répondu que c'était pour moi un grand honneur, mais également une lourde responsabilité que de dispenser ainsi la parole de Dieu. Nous voulons donc prier. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta parole. Ouvre-la maintenant pour nous. Parle à notre cœur, parle à notre intelligence et fais-nous connaître tes voies. Amen. La vie est souvent comparée à un voyage. Et en tant qu'ancien marin, je veux bien sûr vous convier à effectuer un voyage en mer. Voyage mouvementé, sans doute, mais voyage durant lequel nous serons en compagnie d'un grand homme de Dieu. Lui, que s'apprête-t-il à faire en montant à bord de ce navire? Est-ce qu'il veut effectuer une croisière d'agrément pour se reposer après des efforts conséquents? Ben non. Est-ce qu'il entreprend un voyage missionnaire pour visiter des églises, en fonder d'autres? Non, pas vraiment. En fait, s'il est sur le point d'embarquer, c'est tout simplement en tant que prisonnier. Prisonnier en transfert pour Rome, où il doit comparaître devant le tribunal impérial. Et vous l'avez sans doute deviné, cet homme de Dieu, c'est l'apôtre Paul. Pourquoi est-il prisonnier? Voyons un peu le contexte. Qu'a-t-il commis pour être enchaîné? En fait, lors de son dernier passage à Jérusalem, une foule échauffée par de fausses rumeurs s'est emparée de lui et allait le tuer. Et il n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention d'un détachement romain qui l'a soustrait aux mains des agresseurs. Pour l'éloigner des assassins fanatisés, il a été transféré ensuite à Césarée, où il a été maintenu en détention provisoire pendant 2 ans. Mais 2 ans qui n'étaient pas stériles, puisqu'il a pu en fait témoigner de sa foi durant ce temps-là à 2 gouverneurs romains et au roi Agrippa. Mais, comme le dernier gouverneur voulait le renvoyer à Jérusalem, où, sans doute, il aurait eu énormément d'adversaires, Paul, en tant que citoyen romain, a usé de ce droit de se faire juger par le tribunal de César. Et ainsi, nous le retrouvons ici, en train d'embarquer à Césarée. Et je vous propose, en fait, maintenant, de lire le texte, donc dans le chapitre 27 des Actes, à partir donc des versets 1 à... Excusez-moi, donc ici, acte 1 à 6. Et pendant que nous lisons dans nos Bibles, je vous propose, pour ceux qui sont plus visuels, de jeter un coup d'œil à la carte pour suivre l'itinéraire de l'apôtre Paul. Nous partons de Césarée. Quand il fut décidé que nous partirions en bateau pour l'Italie, on confia Paul et quelques autres prisonniers à la garde d'un officier du bataillon impérial nommé Julius. Nous nous sommes embarqués sur un navire d'Adramite qui devait se rendre dans les ports d'Asie mineure. Et nous sommes partis. Nous avions avec nous Aristarque de Thessalonique en Macédoine. Le lendemain, nous avons fait escale à Sidon. Julius, qui témoignait une grande bienveillance à Paul, lui a permis alors de se rendre chez des amis pour recevoir leur aide. Une fois repartis de là, nous avons longé la côte de Chypre pour nous protéger des vents contraires. Puis nous avons traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, et nous avons débarqué à Myra, en Lycie. Donc vous pouvez suivre ici le trajet suivi par l'apôtre Paul. Alors à Myra, là l'officier a trouvé un bateau d'Alexandrie qui était sur le point de partir pour l'Italie, et il nous a fait monter à son bord. Et je vous propose donc d'embarquer maintenant sur ce navire sur lequel donc Paul allait effectuer son déplacement. Alors, en fait, Nous sommes ici en présence de ce qu'on appelle un navire de charge. On l'appellerait de nos jours un cargo mixte, qui est destiné au transport des marchandises et des passagers. Et ce bateau assurait la liaison entre Alexandrie en Égypte et l'Italie, et transportait essentiellement des grains. Il faut savoir qu'à l'époque, l'Égypte était en fait le véritable grenier à blé de Rome, et donc des navires de ce type sillonnaient la Méditerranée pour approvisionner Rome et ses environs. Le bateau pouvait transporter jusqu'à environ 500 tonnes de marchandises et plusieurs centaines de passagers. Passagers qui étaient, par contre, logés de façon assez spartiate. Le prix de la traversée était modique, mais chacun devait se débrouiller comme il pouvait. Il n'était pas question ici de croisière d'agrément. On logeait sur le pont en s'étendant sur une natte. Et si l'état de la mer devenait un peu plus agité, eh bien, on allait en fait se réfugier à l'entrepont. Eh bien, nous partons maintenant donc sur ce navire avec Paul pour poursuivre le voyage. Donc, prenons les versets 7 à 8. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement, et c'est avec beaucoup de peine que nous sommes parvenus à la hauteur de Gnide. Mais le banc ne nous permettait plus d'avancer dans cette direction, et nous sommes passés au sud de la Crète, en doublant le cap Salmoné. Nous avons eu du mal à longer la côte, et nous sommes arrivés à un endroit appelé Beauport, près de la ville de Lazée. Donc voilà une autre partie du trajet qui était déjà relativement difficile. On voit qu'il y avait eu que la navigation était lente, qu'elle se faisait avec beaucoup de peine et qu'on avait du mal à longer les côtes. En fait, cette navigation est rendue difficile pour des raisons météorologiques, mais aussi pour des raisons technologiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les vents dominants en Méditerranée soufflent du nord-ouest, c'est-à-dire en fait à l'encontre de la direction que devait emprunter le navire. Et aucun voilier, quel qu'il soit, n'est capable de remonter directement au vent. Et donc, il fallait à ce niveau-ci louvoyer, c'est-à-dire ce qu'on dit aussi à l'heure actuelle, tirer des bords. Et avec leur voile carrée que vous avez vu en fait sur le bateau, eh bien, on ne pouvait pas se rapprocher beaucoup de la direction du vent. À l'heure actuelle, il est possible de remonter à environ 30 degrés de la direction du vent, mais la voilure carrée ne permettait pas, en fait, ce genre de manœuvre. Et les trajets étaient relativement longs. Par exemple, pour faire le trajet d'Ostie, c'est-à-dire le port qui dessert Rome, jusqu'à Alexandrie, pas de problème. En 8 à 15 jours, la route était faite. Mais pour remonter d'Alexandrie jusqu'au port qui dessert Rome, eh ben là, il fallait entre 2 et 3 mois. En raison de ces vents contraires qu'il fallait effectivement négocier. Et nous pouvons déjà en tirer peut-être une première leçon. Paul, lorsqu'il s'est embarqué pour l'Italie, était parfaitement dans les plans de Dieu. Et cela lui sera confirmé d'ailleurs par la suite. Mais par contre, la navigation était difficile, il avançait lentement. Et donc, si dans notre existence nous pouvons rencontrer des situations contraires, difficiles, ce ne veut pas dire que Dieu est contre nous. Des épreuves peuvent nous attendre par lesquelles nous pouvons effectivement être renforcés, fortifiés et purifiés dans notre façon d'être. Maintenant, nous sommes donc à l'escale. Voilà, nous sommes donc ici à Beauport. Et c'est en fait dans ce port que va se jouer tout le destin du voyage. Et voyons un peu ce qui se passe là. Donc, nous sommes donc dans ce port, et beaucoup de temps, nous lisons maintenant des versets 9 jusqu'à 13. Beaucoup de temps s'était écoulé ainsi, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque du grand jeûne d'automne était déjà passée. Alors, Paul leur a donné cet avertissement. « Mes amis, je considère que si nous continuons notre voyage, non seulement la cargaison et le bateau subiront de grands dommages, mais nous-mêmes, nous risquerons notre vie. Mais l'officier romain se fiait plus à l'opinion du pilote et du patron du bateau qu'aux paroles de Paul. De plus, comme le port ne convenait pas à un hivernage, la majorité a décidé d'en repartir pour gagner, si possible, Phénix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Une légère brise du sud s'était levée, et ils voyaient déjà leur projet réalisé. Ils ont donc levé l'ancre et ont longé la côte de la Crète au plus près. Donc nous voici dans une situation bien particulière. Paul qui intervient, qui prend la parole. Paul le prisonnier. On ne sait pas s'il intervient suite à une révélation divine ou s'il parle de sa propre expérience. Il faut savoir que Paul a, lors de ses voyages précédents, beaucoup voyagé par mer. Et dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, il dira à un moment donné qu'il a fait par trois fois naufrage et qu'il a passé un jour et une nuit en mer. Alors, et il savait aussi, de par son expérience, comme toutes les personnes qui habitaient sur la rive de la Méditerranée, qu'il y avait des époques plus ou moins favorables à la navigation. Par exemple, la mer était déclarée ouverte de mi-mai à mi-septembre. C'est là que se faisait l'essentiel du trafic. Par contre, la mer était dite fermée de mi-novembre jusqu'au début mars. Et là, aucune compagnie d'assurance, parce qu'elles existaient déjà à ce moment-là, n'assurait ou ne garantissait les matières. Et donc, on évitait de prendre la mer dans ce temps-là. Et là, nous sommes dans une période intermédiaire qui, donc, s'étend de mi-septembre à mi-novembre, où la navigation devient périlleuse, incertaine. Et effectivement, lorsque nous voyons la mer Méditerranée, on la voit comme la grande bleue, toujours calme, avec un superbe soleil. Mais pour y avoir navigué, je sais que c'est une mer qui peut être extrêmement changeante et on peut passer sans aucun problème d'un soleil magnifique, d'une mer calme à la pire des tempêtes. Et donc Paul était inquiet à ce niveau-là. En effet, le grand jeûne qui accompagne la fête du Yom Kippour, la fête des expiations, était déjà passé. C'est une fête qui généralement se situe entre fin septembre et début octobre, par exemple l'année dernière. Donc le jour des expiations était fixé au 8 octobre. Donc on était vraiment dans cette période où la navigation était risquée, incertaine. Et Paul donc se sent absolument poussé à intervenir pour avertir ses compagnons. Alors voyons un peu. Le centurion Julius, lui, était donc confronté à deux avis. Il avait l'avis de Paul, mais il consulte les experts, le commandant, le propriétaire du bateau, pour savoir ce qu'il en est. Faut-il poursuivre la route, écouter Paul, ou alors pouvons-nous continuer? Alors, il faut savoir que ces experts de la navigation avaient une lourde responsabilité qu'on ne confiait pas au premier venu. C'était, comme à l'heure actuelle encore, une responsabilité très très importante que d'assurer la sécurité du bateau, de son équipage, des passagers et bien sûr aussi des marchandises transportées. Il n'y avait pas d'école supérieure de la navigation, comme de nos jours, et on imagine que ce genre de responsabilité n'était confiée qu'à des experts, qu'à des marins vraiment chevronnés. Il faut dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de carte marine détaillée, pas d'instrument de navigation comme une boussole qui permet de tenir un cap, pas de sextant ou de chronomètre permettant de faire le point. Il fallait en fait avoir de bonnes connaissances des côtes, et c'est en se repérant sur les côtes, sur les astres, le soleil, les étoiles, qu'on pouvait effectivement savoir où l'on se situait pour poursuivre la route. Et ces experts, à mon avis, avaient de bons arguments. Luc nous livre justement l'un de ceux-ci. Le port, a priori, malgré son nom, Beauport, n'était pas du tout propre à l'hivernage. Peut-être que la rade était ouverte aux différents vents et que le bateau risquait de s'abîmer. Peut-être aussi fallait-il rester au mouillage, ne permettons peut-être pas d'accoster dans ces conditions-là. Peut-être aussi qu'il n'y avait pas de commodité pour l'équipage, ni pour les différents passagers. En plus, il y avait Phoenix, un port parfaitement adapté à l'hivernage, pas loin. Et si vous jetez un petit coup d'œil sur la carte, oh, la distance de Beauport à Phoenix est vraiment très très faible. En suivant le tracé des côtes, d'au plus près, il y en a environ pour une centaine de kilomètres. Les navires, à l'époque, ils pouvaient avancer à 2-3 nœuds, 4-5 kilomètres à l'heure. Vous pouvez facilement faire votre calcul. Ça nous fait à peu près 20-24 heures de navigation. Une broutille. En plus, ce n'est pas une traversée qu'il fallait faire, mais juste suivre les côtes de l'île. Ça ne pose pas de problème. Et puis, la majorité est tout à fait d'accord. Parce que, attention à cette majorité. Et puis, comble de l'histoire, alors que jusque-là, les vents étaient contraires, voilà qu'un léger vent du sud se met à souffler. Et là, tous croyaient déjà leur projet réalisé. Et ils lèvent l'ancre. En effet, on dirait à l'heure actuelle que tous les voyants étaient au vert. On peut y aller sans problème. Toutes les circonstances sont favorables. Maintenant, vous allez me dire, mais ça rime à quoi, ce cours de navigation? En fait, il faut savoir, et justement, le même Paul livre ceci aux Romains dans son épître. Tout ce qui a été écrit, a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et je pense que cette prise de décision faite ici à Beauport est extrêmement riche d'enseignements pour nous. Et en effet, comme Julius, le centurion, nous avons tout au long de notre vie à prendre de grandes décisions. Des décisions qui nous engagent, des décisions cruciales, des décisions vitales. Lorsqu'on est jeune, il faut choisir une profession. Puis s'engager avec un conjoint, choisir peut-être un lieu d'habitation, un lieu de résidence, éventuellement envisager par la suite une réorientation professionnelle. Tous ces choix sont très importants et Julius a bien fait, je pense, de consulter les experts. En effet, le livre des Proverbes ne nous dit-il pas que le salut est dans un grand nombre de conseillers. Même pour nous qui sommes à la recherche de directives, pensons aussi à entrer dans le plan de Dieu. Rechercher la volonté de Dieu au travers de sa parole. Est-ce que la décision que je souhaite prendre est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce qu'elle rentre dans les critères que la parole de Dieu nous livre ou non? Et puis surtout aussi, prenons aussi le temps de prier, vraiment pour entrer dans cette pensée de Dieu. Et là, je voudrais juste prendre avec vous dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 5, au verset 19 et 20. N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Voilà déjà une très bonne ligne directrice pour nous aider à effectuer nos choix. Voyons maintenant une autre catégorie de personnes qui intervenaient ici, les experts de la navigation. Et je pense que nous sommes tous, chacun de notre part, experts dans une certaine matière. Certains sont peut-être experts dans le secours aux sinistrés, experts dans l'entretien d'espaces verts, experts dans la dispensation de la parole de Dieu et dans la gestion d'une institution. D'autres sont experts en la préparation de confitures et de différentes tâches extrêmement importantes. Mais Qu'en est-il de notre expertise? Sommes-nous imbus de notre expertise? Et est-elle pour nous le moyen de réduire au silence ou d'écraser d'autres que nous considérons comme des profanes ou des moins experts que nous? Je me rappelle toujours de ce médecin que je consultais et auquel j'ai présenté lors d'une des consultations un document qui proposait une méthode manuelle permettant d'améliorer en principe mon état de santé. Et ce médecin, tout fort de son savoir, l'a repoussé d'un revers de main disant « Mais on n'a pas besoin de ça avec le superbe traitement que je vous propose. Vous n'en avez pas du tout besoin. C'est absolument inutile. » Sauf que ce traitement ne marchait pas avec la méthode manuelle que j'ai quand même tentée par la suite, m'a apporté pas mal de soulagement. Alors attention à notre expertise. Déjà d'un point de vue purement humain, il faut savoir qu'aucun expert, quel qu'il soit, n'est infaillible. Et nous le verrons d'ailleurs par la suite lors de cette navigation périlleuse. De même, un non-expert qui voit une situation d'un œil neuf peut souvent apporter une autre vision, un autre éclairage et donner des solutions qui échappent à l'expert qui est enferré dans ses raisonnements. Mais maintenant, nous en tant que croyants, comment considérons-nous notre expertise? La voyons-nous comme un don de Dieu pour lequel nous remercions le Seigneur? Ou au contraire, mettons-nous ce don à profit pour les autres, comme justement cela nous est rapporté? La question se pose. Et donc, remercions Dieu pour l'expertise qu'il nous donne. Et faisons en profiter également les autres. Ensuite, dans cette prise de décision, nous avons la majorité. La majorité qui, ayant écouté les experts, dit « Voilà, on peut y aller. » Nous-mêmes, comment réagissons-nous dans un groupe? Est-ce que nous nous laissons entraîner par cette majorité? Est-ce que nous hurlons avec les loups? J'ai été frappé lors des manifestations des Gilets jaunes en 2018 de voir que parmi les casseurs, il y avait des gens qui étaient de bons pères de famille, qui jusque-là étaient absolument sans histoire, mais en étant dans cette foule qui participait à des débordements, eux-mêmes se sont fait entraîner et se sont livrés à des exactions et ont détruit du matériel. Comment facilement on peut effectivement se faire entraîner? Ou alors, que faisons-nous dans une association, un groupement? Faisons-nous profil bas? Nous taisons-nous? Ou partons-nous? Je voudrais juste vous livrer une autre image. Nous sommes ici en 1936, après Jésus-Christ, à Hambourg. Toute une foule, ça, ici, tend le bras pour saluer Adolf Hitler. Toute une foule? Non. Si vous regardez bien, il y a un réfractaire en opposition totale avec la politique raciale d'Hitler et du parti nazi qui croise les bras et qui ne salue pas. Quel courage a-t-il fallu à cet homme pour réagir ainsi? Prenons cela. C'est une image qui m'a beaucoup, beaucoup parlé et qui m'a vraiment porté à la réflexion. Comment réagissons-nous dans un groupe? Et là, j'ai dû penser à cet ancrage indispensable dans la parole de Dieu, dans le psaume 119:9, où il est dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» C'est en se dirigeant d'après sa parole. Et j'ai moi-même pu en faire l'expérience, j'ai eu l'énorme chance, je veux dire, de rencontrer le Seigneur avant de faire mon service militaire. Et combien le fait d'avoir la parole de Dieu comme guide, comme lumière qui me guidait, m'a permis d'éviter de tomber dans des débordements dans lesquels, malheureusement, ont sombré pas mal de mes camarades. Et en voyant cette image, j'ai aussi dû penser aux trois compagnons de Daniel, donc ici Anania, Michaël et Azaria, qui eux étaient invités à se prosterner devant l'idole élevés par le roi de Babylone et qui ont dit non, nous ne le ferons pas, malgré toutes les sanctions qui pouvaient être encourues. Et qui ont préféré aller à la mort plutôt que de s'abaisser à adorer ainsi une idole. Pensons à cela. Enfin, je voudrais vous parler d'un autre personnage important, Paul. Alors, à bord de ce navire, qu'était-il ? Ce n'était pas un passager de marque, ce n'était pas du tout un membre de l'équipage, ce n'était pas quelqu'un qui faisait partie du gratin de la société qui se trouvait là à bord du navire. Il était, on avait dit, prisonnier. Il était sans doute avec les esclaves au dernier rang de cette petite société, de ce microcosme. Et pourtant, il s'est permis ici de prendre la parole et d'avertir. Il savait que c'était son rôle, que c'était son devoir. Et dans notre société, où nous pouvons constater des injustices, des problèmes assez importants, des renseignements, des renversements de valeurs, quel n'est pas sans doute notre devoir. Pour rester un peu dans la lignée de cette photo, je voudrais citer ici le pasteur allemand Niemöller, qui a assisté justement à la montée du nazisme dans son pays, qui a été emprisonné en camp de concentration et qui, à sa libération, a dit « Le silence des pantoufles est plus dangereux que le bruit des bottes. » Le silence est ce que Albert Einstein a traduit de la manière suivante « Le monde est davantage menacé par ceux qui tolèrent le mal que par ceux qui le commettent. » Effectivement, le silence des pantoufles, le silence que nous pouvons garder, soit par indifférence, « Ah, ça ne me concerne pas. » Et Niemöller lui-même a dit au début, lorsque les nazis ont commencé à faire parler d'eux, à prendre le pouvoir, eh ben, il disait que c'était peut-être une bande d'excités. Ça finira par passer. Mais malheureusement, ça n'a pas passé. Ou alors, par défaitisme. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Ils sont tellement plus puissants que nous, et nous, on est là tout seuls. Ou alors, par crainte, par lâcheté. Ben, tous ces silences de pantoufles peuvent avoir des conséquences très fâcheuses. Et pourtant, des fois, une intervention judicieuse peut changer le cours de l'histoire. Je vais vous raconter l'histoire d'un pêcheur qui, un matin, allant taquiner la truite, a entendu parler du fait que le cours d'eau, où il avait l'habitude d'intervenir, devait être rectifié. Et rectifier un cours d'eau en Alsace-Lorraine, c'était terrible. C'est-à-dire, au lieu d'avoir de beaux méandres où les poissons trouvent tout à fait leur habitat, c'est de tracer tout l'ensemble le cours d'eau, d'empierrer les rives, comme ce qu'on voit au niveau des différents épis de jetée. Inutile de vous dire que la rivière à truite, dans ce cas-là, elle est entièrement défigurée et perd tout son intérêt. Ce monsieur est allé voir un de ses amis qui était dans une bonne association, l'association assez puissante a mené son enquête, et on s'est rendu compte à la fin que cette demande, soutenue par une commune, émanait tout simplement d'une seule personne, un agriculteur, qui voulait que tous ses champs, ses prés, se retrouvent du même côté de la rivière. Donc, comme lui, il était embêté, allez, il fallait déplacer carrément la rivière pour que le monsieur ait tranquillement ses champs d'un même côté et puisse les exploiter sans problème. Mais comme ce poteau rose a été découvert, le projet a fait long feu et la rivière coule toujours comme elle était auparavant, pour le plus grand bien de tout le monde. Des fois aussi, il suffit d'un discours bien argumenté pour retourner une assemblée. Une association, un groupe. Et je l'ai souvent vu au niveau professionnel. Un étudiant qui était un peu limite, que tout le monde voulait, par exemple, remettre à la porte et qui, tout à coup, peut continuer son travail, soit par une bonne argumentation de la personne elle-même, soit suite à une bonne argumentation de collègues qui lui sont favorables. Alors, l'année dernière, justement, l'État avait organisé le grand débat, c'était pour nous sans doute l'occasion de nous faire entendre. Mais beaucoup ont dit, ça ne sert à rien, on ne nous écoutera jamais. Mais il est peut-être important que le chrétien lui aussi, se fasse entendre et donne un autre avis que se baser juste sur les biens économiques et autres, pour qu'on puisse aussi remettre l'humain au centre des préoccupations. D'autres consultations ont été réalisées. Quelle était notre place à ce niveau? Donc voilà, nous allons maintenant reprendre la mer et voir ce qui se passe donc avec nos amis, avec Paul, embarqués à bord de ce vaisseau. Et donc je vous invite maintenant à jeter un petit coup d'œil, à lire là donc à partir donc du verset 13, à reprendre le verset 13 et de lire jusqu'au verset 20. Une légère brise du sud s'était levée. Et ils voyaient déjà leur projet réalisé. Ils ont donc levé l'ancre et longé la côte de Crète au plus près. Mais peu de temps après, un vent violent comme un typhon, connu sous le nom d'Eurachion, s'est mis à souffler des hauteurs de l'île. Le bateau était entraîné au large. Il ne pouvait pas résister au vent et nous avons dû nous laisser emporter à la dérive. Nous avons passé ainsi au sud d'une petite île appelée Koda, que nous voyons sur la carte, comme elle nous abritait un peu du vent, nous en avons profité pour nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Nous sommes parvenus à grand-peine à le hisser à bord. Puis on a eu recours à des moyens de fortune. On a ceinturé tout le bateau de cordage. Comme on avait peur d'échouer sur les bancs de sable de la Sirte, ici, on a jeté l'ancre flottante, et l'on continuait ainsi à dériver. Le lendemain, comme la tempête n'arrêtait pas de secouer le bateau avec violence, on l'a délesté d'une partie de sa cargaison. Le troisième jour, les matelots ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau à la mer. Pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil ni les étoiles. La tempête continuait à faire rage et nous finissions par perdre tout espoir d'en sortir sain et sauf. Et oui, tout avait si bien commencé par ce léger vent du sud. Ils croyaient déjà être arrivés à destination. Et voilà qu'un vent violent s'empare du bateau. C'est la tempête. Et nous pouvons nous demander, pour nous, ces tempêtes, dans notre société, dans le monde, nous avons des crises économiques, financières, cycliques. Nous sommes tous au courant de la grande crise environnementale, du dérèglement climatique qui secoue le pays, des inondations, des pluies diluviennes, mais aussi des grandes sécheresses, des incendies, le terrorisme, les épidémies, les guerres qui, au Moyen-Orient, entraînent des migrations forcées, des chrétiens qui subissent des persécutions, et toutes les évolutions sociétales où l'intérêt économique et non pas l'intérêt de l'individu, des personnes, est mis en avant. Et aussi, où nous avons un changement, une inversion complète des valeurs, où tout ce que nous appelait bien par le passé est considéré comme ringard, tout ce qui était considéré comme mal est considéré maintenant comme bien. Mais cela peut aussi être la tempête dans nos vies personnelles, par la maladie, le deuil, le chômage, les difficultés financières, professionnelles, familiales, les crises conjugales, toutes ces tempêtes peuvent nous secouer. Et donc, comme les marins, nous essayons de trouver le moyen d'en sortir. Les marins, donc, ici, appliquent tous les moyens du bord pour déjà garantir leur survie. Ils sécurisent la chaloupe. Ils entourent la coque de cordage pour éviter qu'elle ne se disloque. Ils jettent une ancre flottante. Vous imaginez un grand parachute de toile qui est immergé pour ralentir la dérive du bateau et aussi pour maintenir l'étrave, l'avant du bateau, face aux vagues. Et bien là aussi, nous confrontés à nos tempêtes quotidiennes, aux tempêtes de notre vie, nous aussi, nous menons des actions en mettant en œuvre notre intelligence, notre habileté, pour justement pouvoir limiter la casse et nous tirer d'affaire. Mais là, au paroxysme de cette tempête, toute cette habileté des marins ne servait plus à grand-chose. Et le bateau est parti à la dérive. À tel point que, pour alléger le navire, lui permettre de mieux monter à la vague, Eh bien, ils ont jeté à la mer une partie de la cargaison, alors que le bateau était là justement pour transporter cela. Est-ce qu'on ne voit pas, à travers cette image aussi, le fait de nous délester des choses qui peuvent nous paraître importantes lorsque nous sommes au cœur de la crise, pour nous recentrer sur l'essentiel? Ensuite, ils jettent à la mer le gréement du bateau, ce qui permet au bateau d'avancer, les vergues, les cordages, les éléments de la mâture, ce qui aussi peut-être manifeste une certaine perte de motivation lorsque nous sommes ainsi dans la dérive. Mais au plus, je vous avais parlé avant des moyens de repères, le soleil, les étoiles. Et bien là, du fait du ciel couvert, les étoiles, le soleil, sont devenus non visibles, de telle sorte que notre brave équipage ne savait plus du tout où il en était. Combien cela peut représenter ce que nous pouvons subir également dans ces moments de crise, ne plus savoir où nous en sommes. Et vers la fin, c'est le désespoir, l'attente de la mort. Alors la tempête et ses conséquences ici est le fruit des choix qui ont été effectués lors de cette escale de Beauport. Le fait aussi que Paul et ses avertissements n'ont pas été pris au sérieux. Dans le cas de notre société, il peut y avoir également cette cause des différentes crises, le fait de vouloir s'enrichir, le fait de placer l'intérêt personnel avant l'intérêt global. Mais pas toujours, dans certains cas de figure, eh bien, les problèmes peuvent se révéler à nous. Et là, heureux sommes-nous si nous trouvons un bon conseiller. Et ce conseiller, on va le voir ici avec Paul, qui là va intervenir. Et nous lisons maintenant du verset 21 jusqu'à la fin de ce chapitre. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, « Mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, cette nuit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi et m'a dit, « Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. Nous devons nous échouer quelque part sur une île. » C'était la 14e nuit que nous étions ainsi ballottés sur l'Adriatique, quand, vers le milieu de la nuit, les marins ont eu l'impression qu'on s'approchait d'une terre. Ils ont jeté la sonde et ont découvert que le fond était à 37 mètres. Un peu plus loin, ils ont recommencé et ont trouvé le fond à 28 mètres. Comme ils avaient peur de voir le bateau s'écraser sur quelques récifs, ils ont jeté quatre ancres à l'arrière en attendant avec impatience la venue du jour. Alors les marins qui voulaient s'enfuir du bateau ont commencé à mettre à la mer le canot de sauvetage sous prétexte d'aller amarrer une ancre à l'avant. Mais Paul a dit à l'officier romain et aux soldats, « Attention, si ces hommes ne restent pas à bord, vous ne pourrez plus être sauvés. » Alors les soldats ont coupé les cordages retenant le canot et l'ont laissé tomber à la mer. En attendant que le jour paraisse, Paul a encouragé tout le monde à manger. « Voilà 14 jours, leur a-t-il dit, que vous êtes dans l'attente, sans rien prendre à manger. » Je vous encourage donc vivement à prendre de la nourriture maintenant. Vous en avez besoin pour vous tirer de là. Encore une fois, croyez-moi, aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. Après avoir ainsi parlé, il a pris du pain et il a remercié Dieu devant tous. Puis il a rompu le pain et a commencé à manger. Alors tous les autres ont repris courage et se sont aussi mis à manger. Nous étions en tout 276 personnes à bord. Une fois rassasiés, ils ont continué à délester le bateau en jetant le reste des provisions de blé à la mer. Mais lorsque le jour était venu, aucun des membres de l'équipage ne reconnaissait l'endroit. Ils entrevoyaient seulement, au fond d'une baie, une plage de sable. Ils ont alors décidé d'y faire échouer le bateau, si c'était possible. Les matelots ont coupé les câbles des ancres qu'ils ont abandonnés à la mer. En même temps, ils ont délié les courroies des deux grandes rames qui servaient de gouvernail et hissé au banc la voile de Mycène. Ils avaient mis le cap sur la plage quand le bateau a touché un banc de sable battu des deux côtés par la mer et s'y est échoué. L'avant s'est enfoncé dans le sol, s'immobilisant définitivement, tandis que l'arrière commençait à se disloquer sous la violence des vagues. Les soldats avaient l'intention de tuer tous les prisonniers, de peur d'en voir s'échapper à la nage. Mais l'officier désirait sauver Paul et les en a empêchés. Il a donné l'ordre à ceux qui savaient nager de sauter à l'eau les premiers pour gagner la terre ferme. Les autres suivraient en s'agrippant à des planches ou à des épaves du bateau. C'est ainsi que tous sont arrivés sains et saufs sur le rivage. Une fois hors de danger, nous avons appris que notre île s'appelait Malte. Les habitants, qui ne parlaient pas le grec, nous ont témoigné une bienveillance peu ordinaire. Nous étions donc dans cette situation où tous perdaient espoir. Mais là, grâce à l'intervention divine, Paul prend l'initiative. Jusqu'à présent, durant ces 14 jours, on n'a pas entendu beaucoup parler de lui. Mais là, combien cela devait être impressionnant de voir Paul, le prisonnier, debout, droit dans ses sandales, sur le pont de ce navire en perdition. Alors que tous désespèrent et baissent les bras, cessent de s'alimenter. Alors on ne sait pas si c'était en fait pour jeûner, pour implorer la clémence de leur divinité, ou en raison du mal de mer. Mais voilà que l'on n'entend plus les experts qui avaient préconisé de partir. Au contraire, les marins, fuyant leur responsabilité, veulent lâchement prendre la fuite en abandonnant le navire et les passagers à leur sort. Alors que les soldats, pour éviter toute sanction, cherchent sans hésiter à sacrifier les prisonniers. C'est le chacun pour soi. Mais en fait, Paul est là, en prenant soin de tout le monde. Paul aurait pu se reposer sur la promesse divine et attendre que les événements se déroulent, puisqu'il a eu l'assurance que personne ne serait mis en danger. Mais Paul devient participant. Acteur de ce sauvetage, grâce à sa foi. Il aurait aussi pu être complètement rempli d'amertume envers ces gens qui l'ont embarqué, et c'est le cas de dire, dans cette histoire, dans cette situation, contre son avis. Mais au contraire, si vous l'avez remarqué dans ses paroles, il se montre plein de sollicitude et d'affection envers ses compagnons qui l'encouragent. Mais par contre, l'amour n'exclut pas la vérité, et il se permet quand même de rappeler que c'était contrairement à son avis que la décision d'embarquer a été prise. En effet, l'amour n'exclut pas la vérité, et un amour sans vérité, sans doute, n'est que faiblesse. Et Paul, donc, rappelle ici cet avis. Il aurait aussi pu abuser du désespoir de ses compagnons. Pensez donc, un auditoire de 276 personnes, quel bel auditoire à évangéliser. Il aurait pu dire, voilà, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu, c'est fichu. Mais non, au contraire, comme Paul a reçu cette bonne nouvelle que personne ne se perdrait, voilà qu'il encourage ces gens. Alors, pour la plupart, ce devait être des Égyptiens, Romains, Grecs, païens, polythéistes, et plutôt que de les envoyer vers un Dieu lointain, qui pense et présenter un éventuel au-delà, eh ben, il leur démontre la bonté et la bienveillance de envers lui-même et envers tous ses compagnons, et leur démontre aussi que Dieu reste le maître des temps et des circonstances, en tout cas. Que ce Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais au contraire est un Dieu personnel, capable de sauver parfaitement et le corps et les âmes, parce que ces braves compagnons de Paul devaient être comme notre cher ami Pierre Dac qui disait « Je préfère le vin d'ici à l'au-delà. Et donc, en durant toutes ces interventions, Paul fait preuve d'une très grande sagesse que j'envie ici. Par sa sollicitude, ses encouragements, par sa perspicacité également, son amour n'empêche pas d'être clairvoyant. Il décèle dans la manœuvre des marins leur envie de prendre la fuite. Pourquoi mettre des ancres à l'avant alors que le bateau est poussé vers la côte? Il encourage les gens à prendre la nourriture nécessaire à avoir des forces pour justement pouvoir regagner la côte, lutter contre le froid. Et Paul prend, ou plutôt Paul donne ici son exemple en prenant lui-même de la nourriture. Et puis il ne faut pas oublier un autre point très important. Paul évangélise ici en douceur parce qu'il annonce aussi indirectement le sacrifice de Jésus en procédant à la fraction du pain. Et Luc reprend ici exactement les mêmes termes que ceux par lesquels il a décrit Jésus instaurant la Sainte Cène. Lorsqu'il dit à un moment donné, après avoir parlé, il a pris du pain, il a remercié Dieu ou rendu grâce à Dieu devant tous. Puis il a rompu le pain et a commencé à manger. Là, nous voyons exactement donc cela. Et j'ai pensé à cette remarque justement que Paul fait dans sa lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, versets 23 à 24, où il dit, voilà, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui a été rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et Paul dit, « Toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc là, Paul, indirectement, annonce justement cette mort et ce retour de Jésus. Et cela a un impact fondamental sur les autres passagers. Eux-mêmes, ils reprennent courage, et en particulier, on voit que le centurion Julius, lui, il est à nouveau de la partie. Depuis le départ de Beauport, on ne l'a pas entendu, et c'est là, lui, qui reprend, grâce aux encouragements de Paul, l'initiative. Il empêche les soldats de tuer les prisonniers, et c'est lui, et non pas le maître du bateau, qui dirige en fait l'évacuation du navire. Paul était ainsi en tout point devenu une source de bénédiction. Et voilà que le bateau ici arrive à Malte. On peut penser à la suite. Voilà. Et en fait, donc, et à bord, selon, et d'après la tradition, dans la baie de, qui porte le nom de baie de Saint-Paul. Et vous avez aussi une petite photo qui vous illustre le paysage que Paul devait découvrir, mais là, beaucoup plus calme qu'au jour de la tempête. Et il faut savoir que la fête de Saint-Paul et Pierre, le 29 juin, est toujours, en souvenir de cette arrivée de Paul, un jour férié. Et lorsque mes filles Sarah et Maïna y étaient en juin dernier, ils sont tombés en plein justement sur cette fête-là, qui commémorait donc l'arrivée de Paul et l'évangélisation de l'île qui en a suivi. Alors, que pouvons-nous dire de tout cela maintenant pour notre édification? Eh bien, Paul et ses compagnons de voyage ici formaient en fait une communauté de destinés. Ils partageaient le même destin. Paul, en tant que prisonnier, il ne pouvait pas dire à Beauport, maintenant, je plie bagage, je descends du bateau. S'il avait été un simple passager, il aurait pu le faire. Mais là, en tant que prisonnier, il devait justement suivre le mouvement. Et nous sommes dans une assemblée, une ville, une région, un pays, une planète avec laquelle, justement, nous partageons cette communauté de destinée. Les croyants, ils sont minoritaires, comme sans doute sur le navire à bord duquel voyageait Paul. On est dans un monde qui a perdu ses repères. On a déjà parlé de ce renversement complet de valeurs. Un monde où l'environnement et l'être humain sont sacrifiés au profit. On connaît bien sûr les grands incendies que j'ai déjà évoqués, mais connaissez-vous aussi la disparition silencieuse des insectes? Il paraît que la population des insectes en Europe a, au cours des 30 dernières années, baissé de 80% à cause du changement des modes de culture, d'utilisation des pesticides. Nous sommes dans un monde injuste où les inégalités sont foison. Pensez le PDG de Sanofi qui gagne 343 fois le salaire d'une aide-soignante. Pourquoi un tel déséquilibre? Et 1% des plus riches habitants de la Terre possèdent le double de la richesse cumulée de 6,9 milliards d'autres personnes. C'est un monde aussi frappé par des épidémies. À l'entrée de la salle, nous avons pu nous en rendre compte. Un monde de guerre, un monde de persécution. Nous avons ici de la chance d'être encore dans un monde où notre foi est tolérée. Pour nos frères africains qui vivaient par contre pendant longtemps en parfaite harmonie avec entre différentes communautés, maintenant aussi la persécution se fait jour et de nombreuses personnes sont mises à mort ou brutalisées à cause de leur foi. Alors, qu'en est-il pour nous? Eh bien, Paul est remarquable parce que sa foi l'a poussé à l'action. Et pour nous, qu'en est-il? Il y a quelques années, Jean-Marc a rappelé une parole très importante de Martin Luther King qui parlait de chrétiens thermomètre ou thermostat. Thermomètre qui suit, qui indique la température du lieu. Thermostat qui permet de contrôler la température. Sommes-nous des thermomètres qui, à l'Assemblée, prononcent de belles louanges, mais qui, dans le monde, nous comportons comme lui? Ou au contraire des thermostats qui empêchent peut-être qu'il fasse trop chaud dans le local où nous sommes, dans la pièce où nous sommes, ou trop froid? En fait, il existe aussi, entre thermomètre et thermostat, une troisième voie. Troisième voie, c'est le changement de phase. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, vous avez tous appris à l'école que l'eau a pression atmosphérique habituelle, bout à 100 degrés. Et effectivement, on a beau chauffer l'eau au-delà, tant que cette vaporisation se produit, cette température reste rigoureusement constante. Et ce n'est que la vapeur qui, elle, va à nouveau monter en température. Et ainsi, il y a aussi pas mal de chrétiens qui sont, je pourrais dire, en changement de phase. Et puisqu'on parlait de voyage en mer, je vous invite, juste pour finir, à jeter un petit coup d'œil à un autre homme de Dieu qui a pris la mer plusieurs siècles avant Paul et qui a été confronté également à une violente tempête. C'est le prophète Jonas. Et on va voir comment lui a réagi, parce que j'ai l'impression que lui était à ce moment-là en changement de phase. Donc prenons le livre de Jonas au chapitre 1, les versets ici 3 à 6. Alors Jonas, vous savez ce qui lui est arrivé. Dieu lui a demandé d'aller à Ninive pour signaler que le châtiment de Dieu allait s'abattre sur la ville. Et Jonas, au lieu de partir à Ninive, à l'est, il est parti plein ouest. Il a embarqué sur un navire pour aller à Tarsis. Alors certains qualifient Jonas de prophète fou. Mais il n'était pas fou. En effet, imaginez-vous à la place de Jonas. Reportons-nous aussi quelques 80 ans en arrière. Imaginons-nous en 1943-44 et que Dieu nous dise « Va à Berlin » et dit que dans 2 ans, Berlin sera détruite. Y serions-nous allés? En plus, Jonas, donc hébreu, israélite, savait que son pays avait vraiment beaucoup subi de la part des Assyriens chez lesquels il devait se rendre. Il n'avait peut-être pas envie non plus que la menace de Dieu s'éloigne de ce pays. Et donc ici, Jonas s'est mis en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Donc il descend au port et il s'embarque. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. Puis ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Ça vous rappelle quelque chose? Quant à Jonas, il était descendu dans la cale du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. « Eh quoi? Tu dors? Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être Dieu se souciera-t-il de nous et nous ne périrons pas. » Alors entre le thermomètre qui suit la température du moment et le thermostat, est-ce que nous ne ressemblons pas des fois à Jonas, qui au milieu de la tempête rentre dans sa zone de confort? Ah, on peut avoir des promesses de Dieu et dire voilà, eh ben je me replie au fond du bateau, je m'allonge, je dors, là, je vais là où les mouvements du bateau sont les moins perceptibles. Mais cette attitude est vraiment sans doute contraire à la volonté de Dieu. Et n'oublions pas, lorsque toute l'eau s'est vaporisée, eh ben la température va monter. Et si Jonas avait persisté dans son attitude de rester à fond de cale, le navire aurait fini par se disloquer et Jonas se serait noyé. Donc je reprends simplement ici une parole que déjà Laurent nous a citée la semaine dernière en Matthieu 5, 16, qui est ô combien importante. Voilà. Ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Maintenant, me direz-vous, comment cela est-il possible? Comment pouvons-nous relever les défis de notre temps? Eh bien, Paul a tiré toute son assurance à ces situations difficiles de sa relation qu'il avait avec Dieu. Et je terminerai maintenant, certains diront enfin, par la lecture des paroles mêmes de Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 15, au verset 4 à 6. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans être attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous avez sans doute, durant le récit de Luc, apprécié la précision du vocabulaire. Eh bien, je voudrais juste dire pour finir que ce texte est rentré dans les annales de la navigation. Et dans un ouvrage que j'ai eu l'occasion donc de consulter, on a vu l'apôtre Paul figurant dans les grands noms des voyageurs de l'Antiquité, avec un nom de navigateur qui est parti explorer la côte ouest de l'Afrique, avec Pythéas de Massalia qui est parti explorer toutes les côtes ouest de l'Europe jusqu'au niveau de la banquise, mais qui n'a pas été cru parce qu'originaire de Massalia, l'ancienne Marseille, tout le monde croyait qu'il exagérait.
Ben, j'espère que vous n'avez pas eu de mal de mer. Et ben, maintenant, on va s'approcher de la table du Seigneur. Et on va tourner nos regards vers celui...